Vanessa Escalante, rêveuse de pélicans.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Entre ciel et terre, il y a du sacré, du secret. Il y a le rêve de Vanessa Escalante, une réalisatrice de documentaires qui a tout plaqué pour témoigner intimement de l'Australie, suivre le fil qui la relie peut-être à la communauté aborigène et filmer ce coin de planète sacrée menacé par l'enfouissement de déchets nucléaires. Cela donne « Ma peau d'un autre monde », livre bouleversant, et « La révolte des rêves », prix France Télévisions au Festival international de films de femmes de Créteil. Signe particulier, l'amoureuse mystique est addicte à l'immersion culturelle, n'a rien contre les mondes invisibles et ne déteste pas transcender les barrières mentales. Waouh, rien d'autre ? Si, si. Elle croit aux mémoires transgénérationnelles. Elle a donc bien fait de passer par en sol majeur, où il sera question d'enfants volés, d'autodétermination aborigène et de rêves du pélican. Bonjour Vanessa.
Bonjour Yasmine.
Est-ce que vous êtes partante pour commencer par un petit peu de guitare et beaucoup de spleen ?
Oh là là, oui.
Vous n'avez pas le choix.
Pas le choix.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out all night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing can take away these blues. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, just reminds me of you. I went to the doctor and guess what he told me? He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares, nothing compares. Simons.
Lunettes noires, t-shirt débraillé, voix tutoyant, on va dire le ciel, qu'est-ce qui se passe ? Vanessa Escalante, quand vous écoutez en sol majeur Chris Cornell dans cette version de Nothing Compares to You. Vous me regardez avec des yeux très très ronds, très très noirs.
Et là, c'est parce que ça me, c'est vraiment la voix et la chanson qui me bouleverse le plus. Ça ramène à beaucoup de mélancolie, de mémoires justement, des mémoires très très lourdes, de passion, d'amour passionnel, ouais. Ça raconte l'amour passionnel.
Il fait nuit bleue, nuit du sud de la France. On est peut-être dans un coin des Bouches-du-Rhône, à Miramas, où vous êtes née, Vanessa, en 78. Vous sentez comme ça la nuit ?
J'ai très peur la nuit. Moins maintenant, mais j'ai longtemps eu très très peur la nuit, oui.
Votre parcours de réalisatrice, en tout cas d'après ce que j'ai compris, capable de pénétrer d'autres mondes, commence peut-être avec, dans votre famille, la présence de fantômes.
Oui, après je ne les vois pas, mais j'ai toujours eu ce sentiment de ressentir des présences très très angoissées autour de moi et qui me demandaient de l'aide, et donc je dormais très mal et... Donc j'étais une petite fille qu'on avait qualifiée de, je sais plus qu'est-ce
d'enfant psychique.
J'ai mis ça un peu pour adoucir le terme, mais c'était plutôt enfant traumatisé, quoi.
Mais donc, ces histoires de fantômes, en fait, étaient liées à des disparitions, à des morts dont on ne pouvait pas parler dans la famille.
Oui, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai grandi dans les deuils de ma mère qui a perdu toute sa famille. Hein. Ça s'est un peu enchaîné. Tous ses frères et sœurs sont partis. De maladie, son premier mari, le père de mon frère, qui est mort très jeune aussi d'un accident, et son meilleur ami. Enfin, j'ai vraiment grandi dans la mort, quoi, autour de moi.
Et puis l'enfant que vous avez été a connu une forme de vie communautaire aussi. Et ça, c'est une dimension qui est importante pour la suite. Tout cela annonce peut-être un peu votre propre plongée professionnelle et personnelle qu'on va raconter sur les terres aborigènes. Mais d'entrée de jeu reste la question à laquelle d'ailleurs vous avez une vague réponse. Pourquoi diable l'Australie, Vanessa Escalante ?
Ça a démarré après avoir vu un film magnifique, Le chemin de la liberté, sur l'histoire des enfants volés, des enfants métis aborigènes qu'on voulait christianiser de force pour blanchir les aborigènes en 4 générations. Et c'est l'histoire de 3 fillettes, justement, qui sont révoltées et qui s'enfuient d'une mission coloniale pour retrouver leur maman dans le bush.
Le bush, c'est...
C'est la savane australienne, enfin le désert australien. Et donc, elles partent à la recherche de leur maman. Elles s'enfuient et elles sont pistées, elles sont traquées par un aborigène, un tracker, qui est employé par la police coloniale, en fait. Et j'ai pas compris pourquoi, justement, un tracker pouvait travailler... à la solde du gouvernement australien contre son propre peuple et enlever des enfants. Bon, voilà. Donc, quelque part, au début, je suis partie pour comprendre ça. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Un grand pourquoi ? Parce que je cherchais quelque chose derrière d'inconscient, en fait.
Ah oui ?
Mais je savais. Je cherche encore. Hein. Je veux dire, on fait des films parce qu'on cherche quelque chose. C'est le chemin qui est important, la réponse, finalement, même si on ne l'a pas. C'est pas grave.
Alors avant d'entrer dans cette expérience personnelle du pourquoi et du cheminement, on va suivre votre caméra, celle qui a pu suivre le combat des aborigènes contre le gouvernement australien, donc qui voulait enfuir des déchets nucléaires à Mukati, une terre sacrée. Un procès qui a eu lieu en 2014 et votre film « La révolte des rêves » s'ouvre sur ce procès.
Telecom.
Yeah, let's begin our story now.
Totem et tabou.
Don't waste the territory. This land means a lot to me. Been living here.
Je viens vous parler de l'enfouissement des déchets. Les anciens ont dit au gouvernement qu'ils n'en veulent pas. Les gens ne nous écoutent pas. Voilà ce que dit en substance Nampin, cette femme extraordinaire dont vous nous direz quelques mots tout à l'heure, est venue affronter la justice australienne donc en 2014. Car en fait, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que c'est un combat de femmes.
Alors, pas tout à fait en fait. C'est, disons que ce sont les femmes qui prennent la parole pour la terre, mais ce sont plusieurs clans qui ont mené ce procès contre le Commonwealth australien. Ce procès concernait en fait la protection d'une terre initiatique d'hommes. Donc les hommes étaient aussi très engagés et, et ont dû aussi apporter leur témoignage au cours de ce procès. Mais voilà, c'était plus les femmes qui étaient mises en avant pour parler au nom de la Terre.
Alors vous avez assisté et filmé ce procès en brousse, donc en 2014, comment ça s'est passé ?
Ça a été compliqué. Bon, déjà, ça a mis 4 ans avant que le procès ne démarre. Et c'est un procès qui a généré énormément de tensions au sein des clans, puisque le gouvernement australien a décidé de l'attribuer à un seul des clans.
Lequel ?
Le clan Napa. Et, sauf que les aborigènes, il y avait 5 ou 6 clans concernés. Et chaque terre avait un ancêtre qui racontait une histoire du temps du rêve.
C'est compliqué, hein, raconter ça derrière un micro dans un studio de radio. Je comprends.
Disons que la propriété ancestrale, il s'agit d'un chant qui raconte l'odyssée d'un ancêtre. J'étais du côté du clan Milwayi, c'est le clan des deux serpents. Et donc j'ai qu'un bout d'histoire.
Et quel est ce bout d'histoire ? C'est possible de le raconter ?
Ça tient en une phrase en fait, c'est deux serpents qui sont partis d'un point au sud et qui sont arrivés à Mukati, sur la terre des hommes, qui se sont dit que cet endroit n'était pas bien et qui sont remontés vers le nord pour se réunir. Donc voilà, c'est juste ça que je
connais. Et c'est le mythe fondateur de la création de la Terre ?
C'est le mythe fondateur de cette Terre-là, pour ce clan-là. Et donc le gouvernement australien a décidé que cette Terre appartenait à un seul des clans pour pouvoir l'acheter facilement. Et comme il s'agissait de 12 millions de dollars, ça a créé beaucoup de dissensions entre tous ces clans qui, à la base, sont tous une grande famille. Mm-hmm. Donc un clan s'est dit, nous, on va prendre l'argent, parce que si ce n'est pas nous qui prenons cet argent, les autres vont le prendre.
Ce qu'on voit dans votre film, c'est l'une des femmes donc, qui prend la parole, qui s'appelle Buni Naburula, mm-hmm. et qui se présente comme une propriétaire traditionnelle. Justement, en face d'un gouvernement australien, comment les aborigènes peuvent prouver que cette terre leur appartient ?
En fait, les anciens, leur titre de propriété, c'est un chant et une danse. Ce chant et cette danse sont chantés et dansés depuis des millions d'années sur cette terre. Et on ne peut pas le chanter ni le danser ailleurs, parce qu'elle raconte l'histoire du passage de l'ancêtre. Et donc les avocats et le juge fédéral de toute l'Australie ont fait le voyage spécialement au milieu de l'Australie, ils venaient tous de Melbourne. Pour eux, c'était le voyage de leur vie. Hein. Généralement, les Australiens ne vont pas dans le bush si loin. Et donc, ils sont venus écouter les anciens donner leurs preuves.
Leur titre foncier.
Leur titre foncier.
Mais pour eux, ça vaut pour titre foncier.
Pour
un chant.
Pour les aborigènes, c'est ça ?
Oui, pour les aborigènes. Oui. Mais pour le gouvernement australien, pour les avocats, pour les hommes en costume. Là.
C'est là où c'était fascinant. C'est parce que ces personnes étaient retors et essayaient de faire dire des choses à ces anciens qu'ils n'ont pas le droit de dire aussi. Les codes aborigènes sont... on n'a pas le droit de parler de quelque chose et de quelqu'un si cela ne nous concerne pas. On ne peut parler que de notre histoire, parce que spirituellement, c'est très dangereux. Mmh. Donc souvent, les avocats essayaient de faire dire des choses sur les autres clans. Et ce qui était magnifique, c'est que comme c'est vraiment très dangereux pour eux spirituellement, ils n'allaient jamais là-dedans, ils ne tombaient pas dans le panneau. Donc il y avait des réactions assez marrantes, dont celle de Bunny à un moment, qui s'est levée et qui a dit « Si vous continuez à me parler de choses auxquelles je n'ai pas le droit de parler, je viens les seins nus demain. »
Alors l'un des activistes aborigènes sur lequel on reviendra, Darren, dit à un moment donné 200 ans de colonisation pour se retrouver dans un système qui ne nous reconnaît pas comme êtres humains. Ce que confirme dans votre film, Vanessa, un certain Michael Anderson, expert juridique des droits aborigènes.
Bien sûr qu'ils nous ont empoisonnés et tués. Ils prennent nos droits humains et civiques. Ils ont créé une distinction entre les purs, les vrais aborigènes, comme ils disent, et les métis. Leur argument était que les métis ne devaient pas avoir les mêmes droits que les purs. Le gouvernement a travaillé sur ces lois. Plein de métis aborigènes, des aborigènes que l'on appelle métis. Moi-même, je ne suis pas un métis, selon le gouvernement. Je suis un 5/8 aborigène. C'est ainsi qu'ils ont mesuré mon degré de sang. J'ai vu leur rapport me concernant. Les Blancs ont séparé les enfants aborigènes de leur enseignement traditionnel. pour les sortir de l'influence de leur famille.
So that they don't learn about being an aborigine.
Pour qu'ils n'apprennent pas à être aborigènes.
They don't learn the languages. They don't learn the ceremonies.
Qu'ils n'apprennent ni la langue ni les cérémonies.
And so that disconnects them from their culture.
Qu'ils soient déconnectés de leur culture.
And when you disconnect people from the culture, then they can't go back and claim their land.
Pour qu'ils ne réclament pas leur terre.
Extrait en sol majeur de votre documentaire La révolte des rêves. En fait, Vanessa Escalante, cet expert juridique des droits aborigènes, est-ce qu'il fait indirectement, que je comprenne bien, allusion à cette question des enfants volés en Australie quand il parle de cette distinction entre les purs et les métis ?
Oui, ça fait partie en fait du système de colonisation depuis le départ en fait en Australie. Et aujourd'hui encore, ça se perpétue, mais d'une façon beaucoup plus cachée. Mais à l'époque, on a pendant près de 100 ans, ils ont enlevé à peu près 100 000 enfants métis, parce qu'ils essayaient vraiment d'effacer la couleur noire. Et ils pensaient que seuls les métis pouvaient être récupérés, donc christianisés, et que assimilés, et que les aborigènes noirs s'élimineraient d'eux-mêmes.
Alors derrière cette politique d'enfants volés, on va dire, est-ce qu'il y a la volonté de la part du gouvernement australien, évidemment de façon inavouable, la volonté d'éradiquer carrément les aborigènes ?
C'est dur à dire, mais parce qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi chez les Australiens qui sont descendants de leurs ancêtres colons. Ils ont grandi et été éduqués dans le mythe de leurs ancêtres héroïques qui ont construit l'Australie à la force de leurs poignets. Et à l'école, on leur apprend pas les massacres qui ont eu lieu. En ce moment, il y a beaucoup de mouvements de Black Lives Matter pour récupérer les droits fonciers, la souveraineté aborigène, justement de la part des métis descendants de ces enfants volés. Et donc les Australiens se prennent ça en pleine face et ont beaucoup de mal à accepter, puisque eux-mêmes à l'école n'ont pas été enseignés sur ce qui s'est passé réellement, sur les massacres.
Verdict, 7 ans après le démarrage de ce procès aujourd'hui, où en est cette question des déchets nucléaires en Australie ?
Les clans de Mukati ont gagné leur procès en 2014, mais le gouvernement du coup a déplacé le problème dans le sud, sur d'autres terres. Donc voilà, ils ont sélectionné cette terre contre l'avis des propriétaires traditionnels. C'est toujours un peu...
Ils ont déplacé le problème, simplement.
Voilà, ils ont déplacé le problème. L'enfouissement n'existe pas encore, mais il est en cours.
Vanessa Escalante, est-ce que être une blanche avec une caméra, est-ce que ça aide dans votre travail de réalisatrice ? Est-ce que ça aide côté aborigène et côté gouvernement australien ?
Alors, pas du tout. Le gouvernement australien, j'y ai jamais eu accès. J'ai essayé d'avoir un peu... Le contrepoint de ce que je tournais avec les aborigènes, les portes sont restées toujours fermées. Et à un moment, je me suis dit, puis mince, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout de leur discours, puisque c'est toujours la même chose. Autant écouter ceux qu'on n'entend jamais et qui ont besoin de s'exprimer, parce que la parole libère et la parole guérit. Et donc, je me suis mis finalement à filmer plus pour laisser l'autre parler et le faire se résoudre ses propres conflits intérieurs. Un peu comme un instrument de guérison. Je me suis servi du film comme pour aider l'autre et m'aider aussi moi-même. Mais j'ai pas été tout de suite, non, ça a été compliqué d'être acceptée dans les communautés parce que les aborigènes sont des gens très timides et qui s'expriment pas facilement, ce sont des taiseux. Une caméra, c'est impressionnant. Moi, j'arrive avec mes manières d'occidentale, même si je pensais être un peu différente. J'étais toujours pressée par le temps, par les questions d'argent, et ça se sent. Donc les portes ne s'ouvraient pas.
Avec toujours une volonté d'avoir des réponses au pourquoi.
Et toujours ma volonté d'avoir des... Voilà, c'est le côté volonté, en fait, qui fait peur aux aborigènes.
Alors, il va y avoir tout un cheminement et vous allez finalement être accueilli, accepté, adopté par l'un de ces clans de la communauté aborigène, Vanessa. Où se trouve le lac Naran, en Australie ?
Le lac Naran, c'est entre la frontière entre le New South Wales et le Queensland. Pour vous situer, c'est dans les terres, en partant de Sydney, vous faites 12 heures de route en voiture dans les terres. Voilà, donc c'est vraiment in the middle of nowhere.
C'est un lieu sacré.
Oui, mais toute l'Australie est sacrée pour les aborigènes. Il n'y a pas un endroit qui n'a pas été créé par des esprits ancêtres.
Mais il y a des endroits qui ont été colonisés et dont les esprits, ou en tout cas dans la dimension sacrée, a été détruite peut-être.
Oui.
En tout cas, c'est dans ce lac, comment vous dites ?
Moi, je dis Naran.
C'est là qu'un jour, un certain Angel Andrew, l'un des fondateurs du mouvement Black Power aborigène, vous emmène. Vous allez y découvrir la hiérarchie spirituelle des arbres. On vous montre à un moment donné un site où les enfants sont enterrés, puis un autre site où ce sont les anciens qui y sont enterrés. Et puis en arrivant près du lac, Angel vous fait signe de le suivre en silence.
Il me montre quelque chose. Derrière les hautes tiges compressées, une image féerique se relève sous mes yeux. Des centaines de grands nids flottent sur la surface de l'eau et tous sont remplis d'énormes œufs. Au-dessus de nous se détache l'ombre de pélicans surveillant leur nichée. Angel m'incite à regarder plus en profondeur encore, à travers d'épais buissons. Je cherche, mais je ne vois rien, ils sont trop denses. J'affûte ma vision le plus loin possible dans un interstice quand j'entends les pleurs d'un bébé. À une cinquantaine de mètres, une femme est accroupie. Elle est adossée contre un arbre. Deux anciennes sont à son chevet. Le bébé est tout juste né que l'une des aînées le plonge délicatement dans la fumée d'un feu. Elle berce le nouveau-né dans les spirales. L'autre femme semble enterrer les fluides de l'accouchement au pied de l'arbre. J'entends des chants dont je ne comprends pas la langue. Je suis complètement hypnotisée par la scène. La mère est maintenant allongée. La grand-mère récupère des feuilles et des herbes chaudes dans le brasier et les colle tout contre le torse de la femme étendue, ses côtés et le bas de son dos. Mon regard revient se poser sur le bébé alors que l'autre grand-mère lui souffle dans les narines. Elle lui enroule son cordon ombilical autour du cou. Au même moment, le plongeon d'un pélican me détourne de la scène. Lorsque mon regard revient sur les femmes du bush, elles ont disparu. Je dois avoir l'air hébété car Angel me sourit. « Regarde les darling lilies en fleurs, tu les vois ?»« Non Angel, j'ai vu trois femmes mais elles ont disparu. » Je lui raconte en détail la scène à laquelle je viens d'assister. Angel fronce les sourcils puis s'exclame le plus naturellement du monde, le rêve du pélican t'a attrapé.
Vanessa Escalante, merci pour cet extrait en sol majeur de votre livre « Ma peau d'un autre monde », donc aux éditions Mama. Ben, on y est déjà dans cet autre monde. Qu'est-ce que vous avez compris de ce rêve ?
Le rêve du pélican m'a attrapée. Chez les aborigènes, en fait, les femmes tombent enceintes sur des terres où les esprits enfants sont semés, et c'est les esprits enfants qui attrapent leur mère. Et moi, je n'ai pas d'enfant. C'est un peu une quête aussi, cette Australie, vers cette question « Pourquoi je n'ai pas d'enfant ?»
C'est-à-dire, il y aurait un esprit enfant qui vous attendrait là-bas ?
Alors, c'est... Mais je ne sais pas. En fait, c'est tout un chemin, un cheminement, cette question de pourquoi je n'ai pas d'enfant ? Pourquoi je me suis posé la question trop tard ? Pourquoi maintenant la question revient ? Pourquoi quand j'essaye d'en avoir un, des mémoires très lourdes reviennent et brisent quelque part mes couples ? Il y a l'idée de la création, en fait, originelle, et aussi la création dans mon propre corps. Et c'est une quête que j'essaie encore de résoudre aujourd'hui, donc je n'ai pas toutes les réponses.
L'Australie a des réponses, mais surtout la culture du rêve dans la culture aborigène. Qu'est-ce que c'est que cette dimension du rêve pour les aborigènes ?
Le rêve de la création, pour eux, tout a été manifesté à partir d'une image rêvée. Tout ce qui est matérialisé sur Terre a d'abord été sous forme d'image, avant d'arriver dans la Terre. Et ils sont également très connectés donc, au temps du rêve, à l'espace-temps, où tout existe, préexiste en fait à la réalité. Donc ils reçoivent des informations du futur, si vous voulez, ou du passé, parce qu'ils n'ont pas le sens du temps. Tout existe en même temps. Donc on peut, à travers l'espace du rêve, accéder au passé, changer le passé pour transformer le futur. Donc à partir de maintenant, on peut avoir accès au passé et au futur. Donc c'est un espace-temps où tout existe, tout ce qui est déjà là et tout ce qui est à venir. Et donc on peut y accéder à travers le rêve.
Alors du coup, comment il faut comprendre votre titre de documentaire, La révolte du rêve ?
Pour moi, à l'époque, c'était les ancêtres du temps du rêve, donc les ancêtres de l'espace-temps qui ont rêvé le monde, qui se révoltent pour protéger la Terre.
K. comme karma.
Alors dans cette aventure, Vanessa Escalante, vous êtes devenue beaucoup plus qu'une simple réalisatrice française, sensible, engagée, enfin tout ce qu'on veut, quoi, venue couvrir cette question des déchets nucléaires en terre aborigène, parce qu'il y a eu des véritables rencontres dans ce travail, notamment avec Darren et puis ensuite avec Nampin. Est-ce que vous pourriez nous dire qui ils sont ? D'abord, peut-être Nampin ?
D'abord Nampin, puisque c'est la première femme que j'ai rencontrée en Australie. En fait, je l'ai vue apparaître sur mon fil d'actualité Facebook en 2010. J'ai vu un article disant que des femmes défendaient une terre sacrée aborigène. J'ai vu son visage, je me suis dit, mais elle est impressionnante.
Elle est exceptionnelle à voir, hein. On s'arrête. Moi, j'ai regardé votre film, je me suis arrêtée sur son visage pendant quelques minutes.
Elle est charismatique, c'est une femme du bush. La dernière fois que je l'ai vue, c'est ce qu'elle m'a dit, je suis une femme du bush. Donc elle a les pieds vraiment très ancrés au sol. Hein.
Mais comment la petite occidentale, elle va pouvoir pactiser, on va dire, avec Nampin ?
C'est ça. Et bon, j'avais cette amie qui parlait anglais déjà. Et on a réussi à être introduite par quelqu'un qui était très proche et qui organisait le procès, en fait, qui réunissait les aborigènes, une activiste. Mm-hmm. Et donc le premier entretien était tout de suite aménagé, donc je n'ai pas eu de problème. Mais ensuite, quand j'ai voulu réinterviewer Nampin toute seule, là, ça a été plus compliqué. Là.
Bah, déjà, il y a une histoire de code, hein, parce que vous avez dû vous soumettre à un principe de base chez les aborigènes, c'est-à-dire l'entraide.
Là-bas, on... Comment dire ?
En fait, c'est un troc.
En fait, c'est une réciprocité. C'est de la réciprocité... Comme les liens familiaux là-bas sont très très forts, très importants, je me mets comme si j'étais dans une position aborigène. Donc on a une position sociale qui est donnée à la naissance par un nom de peau. Par exemple, je suis Nangala. Toutes les femmes qui porteront le nom Nampin Jimpa, exactement, seront mes tantes. D'autres noms de peau seront mes pères ou mes mères. D'autres seront mes frères et mes sœurs. Et donc je devrais adapter mon comportement en fonction de la hiérarchie. Et là-bas, on ne dit jamais non. Donc le soutien familial est hyper important. Donc si on te demande, tu peux me donner tant d'argent, tu peux me donner un paquet de clopes, si tu dis non, t'es mal vu. On se doit de rendre à l'autre ce qu'il nous a donné.
Donc en fait, pour obtenir une interview, là dans votre cas à vous avec Nampin, vous ne pouvez pas venir les mains vides et là vous arrivez avec du tabac.
Enfin, je me suis souvenue, parce que j'avais fait un premier voyage en Australie pour un film, et je me suis souvenue qu'il fallait offrir du tabac aux anciens, que c'était vraiment une marque de respect. Et j'avais complètement oublié, et donc ça m'est revenu, et donc on a offert du tabac, et les portes sont ouvertes.
Qui est Darren ?
Alors Darren, c'est mon premier coup de foudre, amoureux et aborigène aussi, après Nampin. Donc Darren, c'est un enfant de la génération volée que j'ai rencontré en 2012 sur mon second tournage. Et Darren, à tous les meetings, il était présent à cette époque-là pour raconter son histoire d'enfant volé. Et je vois cette gueule arriver et je me dis, mais il est extraordinaire. Et puis moi, j'ai un sens artistique.
Une gueule pleine de taches de rousseur, des yeux...
Incroyable, vert, avec une peau vraiment très particulière, avec toutes ces taches de rousseur. Ses cheveux longs, puis une manière de bouger, de marcher.
Un look un peu beatnik, hein.
On peut trouver tous les termes, mais complètement en marge, quoi. Il avait l'air complètement atypique, et donc je me suis dit, il est magnifique, je veux le filmer. Et donc voilà, on s'est rapprochés.
Coup de foudre, comme vous dites. Alors cette culture aborigène, on l'entend déjà dans ce que vous arrivez à nous dire, Vanessa Escalante, elle est puissante, particulière, très empreinte de culture mystique. Elle a ses secrets, elle a ses tabous, elle a ses totems aussi.
À la naissance, on a plusieurs totems. Il y a le totem qui a été rêvé par un membre de la famille, avant qu'un bébé arrive, ou le grand-père ou la grand-mère, ou quelqu'un peut recevoir l'image d'un animal. Donc ça va être l'animal qui va représenter ta personnalité. Ensuite, il y a le totem de tout le clan, c'est-à-dire l'ancêtre mythique qui a donné les lois au clan. Alors, si je me souviens bien, il y a aussi le totem qui appartient au nom de peau et il y a la moitié. Donc, on est dans une moitié ou dans l'autre.
C'est-à-dire, chaque individu est la moitié qui va aller à la quête de son autre moitié toute sa vie,
c'est ça ? On peut le dire comme ça. En fait, pour moi, c'est une façon d'être toujours en équilibre avec les lois universelles de la création. Par exemple, imaginons le clan qui a le totem, l'ancêtre fondateur du kangourou. Kangourou, c'est un ancêtre fondateur très important. Plusieurs clans sont sur le chemin de cet ancêtre. Ils ont reçu les lois de ce kangourou ancestral. Hein. Ce n'est pas le kangourou qu'on a sur Terre. Quoique, il y a des liens. Alors, les enfants qui vont naître dans la partie A, la moitié A va pouvoir consommer le kangourou, l'utiliser sa peau. Ils vont devoir connaître de toute façon tout ce qui concerne l'animal. Alors que les autres qui naissent dans la moitié B, il va y avoir un tabou, ils vont devoir protéger le kangourou, ne jamais avoir le droit de le manger. Donc c'est une façon d'équilibrer les choses, quoi. Certains vont le tuer, certains vont devoir le protéger. Oui. C'est grossier, hein, ce que je raconte, c'est une généralité. Hein.
C'est vulgarisé, on va dire.
Avant notre départ, nous retrouvons Nampin et ses petits-enfants dans le parc de Marianne, au bord d'un lac artificiel, sur la Stuart Highway. Je lui apporte un bon sac de viande acheté chez un boucher qu'elle partage avec ses enfants. Nampin veut inclure Darren et moi dans sa famille. Elle nous attribue un nom de peau, Nangala pour moi et Jangala pour Darren. Les premières lettres distinguent le féminin du masculin. Nampin devient automatiquement notre tante dans le classement familial aborigène. Les Nangala et les Jangala sont les neveux et nièces des Nampinjimpa et des Jampinjimpa. Nous sommes heureux de cette place dans la grande famille Warumungu du territoire du Nord. Le problème, c'est qu'en nous attribuant cette position, Darren et moi sommes frères et sœurs. Si nous suivons la loi traditionnelle, nous sommes dans une obligation d'évitement. Volontairement ou involontairement, Nampin vient de nous mettre hors la loi.
Merci Vanessa. Donc vous avez reçu ce que je trouve d'une beauté incroyable. Vous avez reçu un nom de peau de la part de Nampin.
Le nom de peau est souvent donné aux blancs qui viennent régulièrement dans les communautés aborigènes. C'est une façon de nous inclure dans la famille et d'avoir une position, justement, pour pouvoir répondre aux ordres et aux demandes des anciens.
Ça veut dire que vous faites partie désormais de ce qu'on appelle la toile aborigène.
C'est une forme de toile. Le tissu familial est sous forme de toile, c'est vrai, parce qu'il regroupe pratiquement l'ensemble des clans de toute l'Australie. Donc, n'importe où j'irai en m'appelant Nangala, si je vais dans le sud de l'Australie, je serai en lien, moi aussi, avec les Nampinjimpa, les Jampinjimpa, avec ces femmes-là ou ces hommes-là qui seront mes oncles et tantes. Mm-hmm. Je ne sais plus le nom de mes mères et de mes pères, mais si
je... Alors réviser, hein.
Voilà, puis les noms sont compliqués. Mais en tout cas, n'importe où que j'aille, j'aurai une place dans une famille, que ce soit dans le nord, dans l'ouest, dans le sud de l'Australie, grâce à ce système de classification.
Baby, they take him away. As a young preacher, I used to ride a quiet pony round the countryside in a native camp. I'll never forget a young black mother, her cheeks all wet. My baby away from white man boss, that baby I have, why he let him take baby away. Yeah.
children's hall, a baby came with new clothes on and a new name. Day and night he would always say, oh mummy, mummy, why they take me away? Why? What are you? Did you ever get an eye boy guarding on?
Qui est ce coyote là? Ce cowboy en sol, dans le poste en sol majeur, Vanessa.
C'est beau, coyote. Très, très beau. C'est Bob Randall. Je suis allée avec Darren jusqu'à chez lui en plein milieu de l'Australie, derrière le gros caillou Ayers Rock, Uluru, dans sa petite communauté cachée. On est arrivé et puis il était malheureusement pas là et il est décédé pas longtemps après.
Ancien enfant volé aussi. Hein.
Ancien enfant volé, donc d'ailleurs c'est vraiment le cri, on sent le cri de l'enfant arraché à sa mère. Hein, dans ce chant, c'est magnifique et c'était très très mélancolique.
Est-ce que vous faites un lien, vous Vanessa, entre le fait d'avoir justement trouvé une place dans cette culture du bout du monde et votre histoire première à vous, vos origines familiales à vous?
Bah quelque part, après des années, j'ai compris que je recherchais ma propre identité sur mes propres terres, puisque moi j'ai toujours fui ma région, enfin j'ai jamais aimé particulièrement mon pays, j'étais toujours à la recherche d'autres terres, de quelque chose d'autre.
Quand vous dites mon pays, c'est la France?
La France, oui. J'étais tout le temps en fuite, en fait. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais il y avait cette recherche. Et en fait, j'ai compris que je me fuyais moi-même, mais plus mon corps, à la limite. Et ça rejoint cette histoire d'enfant. Et les aborigènes, en fait, ils sont tellement ancrés à leur terre et à leur famille que c'était le miroir de ce qui me manquait, quoi.
Vous vous demandez aussi si cette quête-là n'est pas une réparation inconsciente d'un karma familial.
Ben, c'est vrai que ça pose question. Le fait d'avoir vécu chez des grands-parents qui n'étaient pas vraiment les miens et que j'ai cru être les miens pendant longtemps, qui étaient eux-mêmes des colons en Algérie et qui ont été repoussés du pays qui pensait être le leur. Ils avaient mon âge en plus, ils avaient plus de 40 ans quand ils ont quitté l'Algérie. Donc ils étaient chargés de cette histoire, ils me l'ont transmise aussi, par le non-dit, parce qu'il ne fallait jamais parler d'Algérie. Du côté de mes lignées maternelles, pareil, on a eu beaucoup d'ancêtres dépossédés de leurs terres. Du côté de mon père, j'en parle pas, avec mon grand-père avait quitté la dictature de Franco pour arriver en France. Donc il y a des mémoires, ouais, je pense que...
Vous croyez à la mémoire transgénérationnelle?
Ah mais complètement, oui. Complètement, j'y crois et j'ai l'impression d'en transmuter tous les jours.
Mais alors est-ce que le cheminement vers l'autre a quand même des limites, vous diriez?
Oui, parce que je pense même aujourd'hui, avec l'amour que je porte pour ces cultures aborigènes, avec les liens que j'ai créés, je ne serai jamais aborigène, et d'ailleurs, je ne sais pas ce que je souhaite, et je n'aurai jamais une légitimité, et je ne voudrais jamais dire que je suis porte-parole de qui que ce soit. Et puis culturellement, on est très très différents. On a beau faire le pas vers l'autre, il reste que nous, occidentaux, on a perdu le lien à nos origines. Eux, ils ont gardé leur lien jusqu'à 60 000 ans en arrière. Eux, ils se rappellent de leurs origines. Nous, on a tout perdu. Donc déjà là, la limite, elle est là.
Vanessa Escalante pour En Sol Majeur, réalisatrice de documentaires qui ne fait plus vraiment la différence entre le rêve et la réalité, et peut-être même entre le réel et la fiction.
To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune.
A.
Or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them, to die, to sleep.
Ah, comme.
No more.
Autoportrait.
And by asleep,
être ou ne pas être, etc. Mourir, dormir, rêver peut-être. Eh, c'est l'écueil. Car ce sommeil de mort peut apporter des rêves dont, lorsque nous rejetons notre chaos charnel, la perspective nous retient en suspens. Pourquoi Hamlet, Vanessa?
D'abord Kenneth Branagh, qui joue dans ce film Rabbit Profound, c'est le chemin de la liberté qui m'a déclenché mon départ en Australie. Et puis Kenneth Branagh, parce que je voulais être actrice aussi quand j'étais plus jeune. Ça m'a duré très très longtemps, cette passion.
Aventurière archéologue, actrice de cinéma ou cosmonaute?
Bah ouais.
Toujours l'ailleurs.
Oui, je dois avoir une mémoire encore de grande aventurière, je pense.
Mais Hamlet, c'est les spectres. On est dans
Il y a l'histoire du fantôme du père et il y a aussi une histoire de choix entre la vie et la mort. Et je pense que j'ai aussi beaucoup ça dans mon parcours. L'ombre, la lumière, le choix de la vie et la mort, enfantée, pas enfantée. Et c'est quelque chose qui me met dans la contradiction permanente.
Et puis l'acteur touche à l'imaginaire et, on va dire, à une forme d'absolu.
Ah oui, l'absolu.
Et là, on est chez vous déjà. Ce qui nous amène à une figure qu'on peut évoquer rapidement, on avait trouvé sa voix mais l'horloge tourne, à cette figure controversée de la spiritualité, celle de Omran Mikhaïl Aïvanov, qui est présenté comme ésotériste et qui est le fondateur de la fraternité blanche universelle, qui est considérée par certains comme une secte. Mais pour vous, sa pensée est une source?
Sa pensée, et puis il n'y a qu'à le regarder pour être inspiré, je crois.
Il ressemble à
un grand mage.
Un grand mage, oui, c'est vrai.
C'est une personne magnifique, avec un cœur magnifique. Pour moi, c'est tout ce qui dégage. Et je me fie à ce que je ressens, et pas à ce qui a pu être dit ou fait auparavant, à une autre époque. Et donc, Omran, c'est une source d'inspiration. Et je me couche tous les soirs en lisant quelques pages d'Omran, parce que je veux m'endormir avec des belles pensées. Parce que justement, le rêve est important chez moi et je veux partir dans des endroits qui ne sont pas obscurs. Donc, je m'inspire de la lumière.
Et donc, vous avez une phrase qui est comme un mantra que vous nous avez ramené? Non, vous ne l'avez plus?
J'ai dans mon téléphone.
Bah, regardez. Heureusement, il y a des petits gestes occidentaux qui peuvent nous reconnecter à la spiritualité.
Nous devons tous nourrir notre corps physique, c'est nécessaire, mais c'est insuffisant. Nous devons apprendre à nourrir nos corps subtils, et la nourriture des corps subtils est la lumière.
Ça, c'est une phrase qui vous parle. Le corps subtil,
Les corps subtils sont ce qui nous permet de justement nous connecter à cet espace-temps et aux dimensions invisibles, parce que je crois aux dimensions invisibles.
Une dernière question, vous qui franchissez donc des zones invisibles, des zones interdites aussi aux femmes, comme dans votre documentaire d'ocre et de sang, où là vous avez filmé des rituels d'initiation qui sont réservés aux hommes, je parle toujours des aborigènes en Australie. Je crois que vous avez un autre projet sur le feu qui s'appelle Love Skins, en un mot.
Love Skins, c'est l'amour que je porte pour... ma belle-fille, mon ex-belle-fille aborigène, la fille de Darren, qui est complètement donc déconnectée de sa culture. C'est une Australienne qui a perdu son identité aborigène à cause de l'assimilation. J'ai un rêve, c'est de l'emmener dans le désert, rencontrer des femmes traditionnelles pour l'emmener à son initiation, pour devenir une femme.
Donc la quête n'est pas finie.
Elle s'arrête jamais, hein.
Merci Vanessa Escalante. Est-ce que pour se quitter dans cette forêt de sensations et de questions sans réponse, il faut qu'on s'y fasse, il n'y a pas des réponses à toutes nos questions, qu'est-ce qu'on fait? Rien de tel que Midnight Oil avec Beds Are Burning ou bien Vanessa Paradis avec Le Baiser?
Oh, Midnight Oil, c'est rock.
Vous n'êtes pas que spirituel, vous êtes rock aussi.
Aussi.
River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is
the Yondabu, the western desert lives and breathes in 45 degrees.
The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share.
Sol Majeur, émission à retrouver en podcast sur l'une de vos applications chéries, sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et puis bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Raphaël plus quoi, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain avec Iman et Yitayo. Vous serez là demain, j'espère. À demain.
À demain.
Ça va, ça va,
ça va,
ça va, ça va,
ça va, ça va.